Chapitre 12. Tommy retrouve un vieil ami. Depuis le trottoir d'en face, Tommy jeta un coup d'œil sur les locaux de messieurs Partingdale, Harris, Lockridge and Partingdale. Ils avaient un air de parfaite respectabilité. La plaque de cuivre était usée mais soigneusement polie. Il traversa la rue et, une fois passées les portes battantes, fut accueilli par le bruit assourdi de machines à écrire lancées à grande vitesse. Il se dirigea vers un guichet ouvert qui portait la mention « Renseignement ». Derrière, dans une petite pièce, trois femmes tapaient à la machine, tandis que deux clercs recopiaient des documents. Une légère odeur de moisie flottait dans l'air, typique de l'atmosphère propre aux papiers officiels. Une femme d'un blond terne, d'environ 35 ans, à l'expression sévère et portant un pince-nez, abandonna sa machine pour venir au guichet. « Vous désirez ? Je voudrais voir Monsieur Eccles. » L'expression de sévérité de la dame s'intensifia. « Vous avez rendez-vous ? Non, mais je ne suis de passage à Londres que pour la journée. Monsieur Eccles est très occupé ce matin. Un autre responsable de l'étude, peut-être ? C'est Monsieur Eccles que je suis venu voir. Nous avons déjà correspondu. Ah, je vois. Voulez-vous me donner votre nom ? » Tommy lui donna ses noms et adresses, et la femme blonde se retira pour conférer avec le téléphone qui se trouvait sur son bureau. Après un murmure de conversation, elle revint. « Leclerc va vous conduire dans la salle d'attente. Monsieur Eccles va vous recevoir dans une dizaine de minutes. » On fit entrer Tommy dans une pièce où se trouvait une bibliothèque pleine de vieux et très sérieux livres de droit, ainsi qu'une table ronde couverte de journaux financiers divers. Tommy s'installa et repassa dans sa tête les méthodes d'approche qu'il avait mises au point. De quoi pouvait bien avoir l'air Monsieur Eccles ? Quand, après avoir été enfin introduit, il le vit quitter son bureau pour le recevoir, il décida sur le champ, sans aucune raison précise, qu'il ne lui plaisait pas. Mais pourquoi ? Ce Monsieur Eccles n'avait rien de particulièrement détestable. Entre 40 et 50 ans, les cheveux gris se raréfiant sur les tempes, il avait un long visage triste et fermé, des yeux perçants et par moments, de façon tout à fait inattendue, un sourire agréable qui tranchait sur son attitude mélancolique. « Monsieur Beresford ? Oui, c'est une affaire insignifiante qui m'amène, mais qui inquiète ma femme. Elle vous a écrit, je crois, ou elle vous a téléphoné pour vous demander l'adresse de Madame Lancaster. »« Madame Lancaster !» répéta Monsieur Eccles avec une parfaite expression de joueur de poker. Ce n'était même pas une question, il laissa le nom flotter en l'air. Un homme prudent, se dit Tommy, mais après tout, la prudence est une seconde nature chez les hommes de loi. Cela dit, quand il s'agit de celui qui défend vos intérêts, vous ne lui en faites pas grief. Il poursuivit. Elle vivait encore tout récemment à la Crête Ensoleillée, un excellent établissement pour vieilles dames. En fait, ma propre tante y a vécu aussi très heureuse. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Je me souviens maintenant. « Madame Lancaster, elle n'y est plus, je crois, c'est bien ça ?»« Oui, » répondit Tommy. « Je ne me rappelle plus au juste. »« Comment ça, Monsieur Eccles, en tendant la main vers le téléphone ?»« Il faut que je me rafraîchisse la mémoire. »« Je peux vous expliquer très simplement la situation, » intervint Tommy. « Ma femme voudrait connaître l'adresse de Madame Lancaster parce qu'elle se trouve par hasard en possession d'un objet qui lui a appartenu. Un tableau, pour tout dire. » Madame Lancaster en avait fait cadeau à ma tante, Mademoiselle Fanshawe. Celle-ci étant morte récemment, ses quelques affaires nous sont revenues, y compris ce tableau. Il plaît beaucoup à ma femme, mais elle se sent coupable de le garder. Si Madame Lancaster y attachait un prix quelconque, elle serait prête à le lui rendre. « Ah, je vois, » dit Monsieur Eccles. « C'est certainement très délicat de la part de votre épouse. » « On ne sait jamais, » poursuivit Tommy avec un aimable sourire. Les sentiments que les vieilles personnes nourrissent envers leurs biens. Comme ce tableau plaisait beaucoup à ma tante, elle a peut-être été très contente de le lui offrir, mais ma tante, étant morte très peu de temps après, il peut lui sembler injuste qu'il tombe maintenant entre les mains de parfaits étrangers. Il n'a pas de titre, il représente une maison dans la campagne. Et, qui sait, cette maison est peut-être liée d'une façon quelconque à la famille de Madame Lancaster. « Certes, certes, » répondit Monsieur Eccles. « Mais je ne pense pas. » On frappa à la porte. Un clerc entra, avec à la main une feuille de papier qu'il posa devant Monsieur Eccles. Celui-ci y jeta un coup d'œil. « Ah oui, oui, je m'en souviens maintenant, oui, Madame Beresford, » dit-il après avoir regardé la carte de visite de Tommy qui se trouvait sur son bureau. « Madame Beresford m'a téléphoné à ce sujet. Je lui ai conseillé d'entrer en rapport avec la succursale de Hammersmith de la Southern Counties Bank. C'est la seule adresse que je possède moi-même. La banque fait suivre les lettres libellées au nom de Madame Richard Johnson. Madame Richard Johnson est une nièce, je crois, ou une lointaine cousine de Madame Lancaster, et c'est elle qui a pris toutes les dispositions avec moi pour l'entrée de Madame Lancaster à la crête ensoleillée. Elle m'avait demandé de me renseigner sur cet établissement dont elle avait entendu parler par un ami. Je peux vous assurer que c'est ce que nous avons fait scrupuleusement. L'établissement jouissait d'une excellente réputation et je crois que la parente de Madame Johnson, Madame Lancaster, y a passé plusieurs années très heureuses. Elle en est partie plutôt brusquement, remarqua Tommy. Oui, oui, je sais. Il semble que Madame Johnson soit rentrée récemment du Kenya, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et qu'elle se sente maintenant capable de prendre sa vieille parente en charge. J'ignore où se trouve à présent cette Madame Johnson. Elle m'a écrit pour me remercier et régler nos comptes, mais elle ne savait pas encore où elle allait s'installer avec son mari, et elle m'a donné l'adresse de la banque pour le cas où j'aurais besoin de la joindre. Je crains fort, Monsieur Beresford, de ne pas en savoir plus. » Son attitude était aimable mais ferme. Elle ne trahissait ni embarras ni trouble d'aucune sorte, et le ton était catégorique. Puis M. Eccles se détendit et ajouta moins sèchement, de façon lénifiante, « Je ne me ferai pas de soucis à votre place, Monsieur Beresford, ou plutôt à la place de Madame Beresford. Madame Lancaster est une vieille femme, sa mémoire est défaillante. Elle a probablement tout oublié de ce tableau. Elle doit avoir dans les 75 ou 76 ans. À cet âge, on n'a plus toutes ses facultés. Vous la connaissez personnellement ? Non, je ne l'ai jamais vue. Mais vous connaissez Madame Johnson ? Elle est venue quelquefois me consulter à propos de certaines dispositions à prendre. Elle m'a paru tout à fait compétente, aimable et efficace. « Désolé de ne pouvoir vous aider, Monsieur Beresford, » ajouta-t-il en se levant. C'était un congé poli, mais sans équivoque. Tommy se retrouva dans Bloomsbury Street, à la recherche d'un taxi. Le paquet qu'il portait, s'il n'était pas lourd, était d'un format encombrant. Il jeta un coup d'œil au bâtiment qu'il venait de quitter. Il était respectable à souhait, établi de longue date. Rien qui cloche, rien à reprocher à messieurs Partingdale, Harris, Lockridge and Partingdale. Rien à reprocher à M. Eccles. Pas le moindre signe d'inquiétude ou de gêne. Pas la moindre fausse note. Dans un roman, songea tristement Tommy, le nom de Lancaster ou de Johnson aurait aussitôt provoqué un sursaut coupable ou un regard en dessous. Quelque chose aurait montré que le nom avait fait mouche, que tout n'était pas normal. Mais les choses n'avaient pas l'air de se passer de la même façon dans la vie réelle. L'attitude de M. Eccles avait été simplement celle d'un homme trop poli pour manifester son déplaisir d'avoir à perdre son temps pour répondre aux questions de Tommy. « N'empêche, se dit Tommy, je n'aime pas M. Eccles. » Il lui rappelait vaguement d'autres personnes qui, pour tout un tas de raisons variées, lui avaient autrefois déplu. La plupart du temps, ses intuitions, car ce n'étaient que des intuitions, s'étaient révélées justes. En réalité, c'était peut-être plus simple. Si vous avez fréquenté beaucoup de monde, les gens que vous rencontrez vous inspirent aussitôt certains sentiments. Exactement comme, dans un objet et avant toute expertise, un marchand d'antiquité flaire immédiatement le faux. Quelque chose ne va pas. De même pour un tableau. De même sans doute pour un billet de banque, si bien contrefait soit-il, que l'on présente à un caissier professionnel. Il n'y a rien à redire, songeait Tommy. Rien à redire à son attitude, rien à redire à ses paroles, et il n'empêche que... Il adressa des gestes frénétiques à un chauffeur de taxi qui lui renvoya un regard froid, accéléra et poursuivit son chemin. « Salopard !» marmonna Tommy. Il regarda à droite et à gauche en quête d'un chauffeur plus obligeant. Les gens allaient et venaient nombreux, les uns se dépêchant, les autres flânant. Un homme s'était arrêté devant une plaque de cuivre sur le trottoir d'en face. Après l'avoir étudié avec attention, il se retourna. Tommy ouvrit un peu plus grand les yeux. Il connaissait ce visage. L'homme marcha jusqu'au bout de la rue, s'arrêta, fit demi-tour et revint sur ses pas. Quelqu'un sortit du bâtiment qui se trouvait derrière Tommy et, à ce moment-là, l'homme qui se tenait sur le trottoir d'en face accéléra un peu l'allure pour marcher du même pas que l'homme qui venait de sortir. Celui-ci, se dit Tommy en le voyant s'éloigner de dos, était certainement M. Eccles. Au même moment, un taxi en maraude passa, tentateur. Tommy leva la main et monta dans la voiture qui s'était arrêtée à sa hauteur. « Vous allez où ?» Tommy hésita un instant, un œil sur son paquet. Il allait lui donner une adresse quand il changea d'avis et dit « 14 Lyon Street ». Un quart d'heure plus tard, il était arrivé à destination. Après avoir payé le taxi, il sonna et demanda à M. Ivor Smith. On l'introduisit dans une pièce du premier étage où l'homme qui était assis face à la fenêtre se retourna et s'exclama avec une légère surprise. « Tommy, ravi de vous voir, cela fait des siècles. Qu'est-ce que vous faites ici ? Juste un petit tour pour serrer la main de vos vieux amis ?»« Pas seulement, Ivor. Vous rentrez de la réunion annuelle ?»« Oui. Toujours les mêmes bavardages, je suppose. Aucune décision concrète n'a été prise. Rien d'utile n'a été dit. Exactement, une pure perte de temps. » Passez surtout à écouter ce vieux Boggy Waddock parler à tort et à travers, j'imagine. Assommant. De pire en pire chaque année. Enfin, Tommy s'assit dans le fauteuil qu'on lui proposait et accepta une cigarette. Je me demande si par hasard vous auriez quelque chose sur un certain Eccles, notaire de l'étude Partingdale, Harris, Lockridge and Partingdale. Tiens, 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 fit Ivor Smith. Il haussa les sourcils, des sourcils très bien conçus pour se hausser. Leur extrémité près du nez se levait tandis que l'extrémité opposée descendait dans des proportions considérables, ce qui, à la moindre petite provocation, lui donnait l'air d'un homme qui vient de recevoir un choc terrible, alors qu'en réalité c'était chez lui une expression parfaitement banale. « Si je comprends bien, vous vous êtes heurté à Eccles quelque part, c'est ça ?»« Oui, » acquiesça Tommy, « et mon problème c'est que je ne sais rien de lui. » »« Or, vous voulez savoir quelque chose ?» « Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait penser à me le demander ?»« J'ai aperçu Anderson. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, mais je l'ai reconnu au premier coup d'œil. Il filait quelqu'un. Qui que ça puisse être, c'était quelqu'un qui était sorti de l'immeuble dont je venais de sortir moi-même. Il s'y trouve deux études d'hommes de loi et un bureau d'experts comptables. Évidemment, ça pouvait être n'importe qui de n'importe lequel de ces bureaux, mais j'ai cru reconnaître Eccles dans la rue. » Alors je me suis demandé si par hasard ce n'était pas lui qui retenait l'attention d'Anderson. Fit encore Ivor Smith. « Ma foi, Tommy, vous avez toujours eu du nez. »« Qui est Eccles ? Vous ne le savez pas ? Vous n'en avez aucune idée ?»« Pas la moindre, » répondit Tommy. « Pour faire court, je suis allé lui demander des renseignements à propos d'une certaine Madame Lancaster, une vieille dame qui vient de quitter sa maison de retraite. Il se trouve que M. Eccles et le notaire chargé de ses affaires. Charge dont il semble s'être acquitté au mieux avec diligence. Je voulais obtenir de lui l'adresse actuelle de Madame Lancaster. Il prétend ne pas la connaître. C'est possible, mais j'en doute. Il est ma seule piste. Parce que vous voulez la retrouver ? Oui. Je ne crois pas pouvoir vous être d'un grand secours. Eccles est un notaire sérieux et respectable qui gagne beaucoup d'argent, qui a beaucoup de très respectables clients, qui travaille pour la petite noblesse terrienne, les professions libérales, les soldats et les marins à la retraite, les généraux, les amiraux, tous ces gens-là. C'est le summum de la respectabilité. D'après ce que vous me dites, il a agi strictement dans les limites de ses activités d'homme de loi. « Ce qui n'empêche pas que vous vous intéressiez à lui, » remarqua Tommy. « Nous nous intéressons en effet beaucoup à M. James Eccles, » répondit Ivor Smith en soupirant. « Voilà au moins 6 ans que nous nous intéressons à lui, et nous n'avons guère progressé. »« Passionnant, » dit Tommy. « Mais je vous le demande encore une fois, qui est exactement M. Eccles ?»« Vous voulez dire de quoi le soupçonnons-nous ? » ?»« Eh bien, pour vous le résumer en une phrase, » nous le soupçonnons d'être le cerveau criminel ou plutôt crapuleux le mieux organisé de ce pays. « Crapuleux ?» répéta Tommy, surpris. « Oh oui, ni barbouze, ni espionnage, ni contre-espionnage. Non, pures activités de gangstérisme. Pour autant que nous ayons pu en juger, il n'a personnellement jamais de sa vie commis un acte répréhensible. Il n'a jamais rien volé, jamais fabriqué de faux, jamais détourné de fonds. Nous n'avons absolument rien contre lui, mais dès que nous avons affaire à une vaste entreprise de vol organisé, nous trouvons toujours à l'arrière-plan M. Eccles qui mène une vie sans reproche. « 6 ans, » répéta Tommy songeur, « peut-être même plus. Il nous a fallu un certain temps pour comprendre. Hold-up de banque, vol dans les bijouteries, dans les divers endroits où l'argent abonde, tous adoptent le même canevas. Impossible de s'empêcher de penser qu'ils ont été mis au point par le même cerveau. Les gens qui exécutent et mènent à bien ces opérations n'ont jamais conçu quoi que ce soit. Ils se contentent d'aller où on leur dit d'aller, de faire ce qu'on leur dit de faire. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Quelqu'un d'autre a réfléchi pour eux. Et qu'est-ce qui vous a fait mettre le doigt sur Eccles ? Ivor Smith secoua la tête. Ce serait trop long à expliquer. Cet homme-là a beaucoup de relations, beaucoup d'amis. Il joue au golf avec certains, d'autres prennent soin de sa voiture. Des agents de change agissent en son nom. Il a des parts dans des entreprises qui font des affaires parfaitement légales. Si le processus est pour nous devenu assez clair, en revanche, son rôle l'est beaucoup moins, mis à part le fait qu'il est remarquablement absent en certaines occasions. Qu'il se produise un important hold-up de banque, soigneusement prémédité, sans aucun souci d'économie, croyez-le bien, avec fuite organisée et ainsi de suite, où se trouve M. Eccles à ce moment-là ? À Monte-Carlo ou à Zurich, ou encore en train de pêcher le saumon en Norvège. Vous pouvez être sûr que M. Eccles ne se trouve jamais à moins de 1500 km de l'endroit où s'est perpétré quelque crime majeur. Et pourtant, vous le soupçonnez. Oh oui, j'en suis même sûr quant à moi. Mais je ne sais pas si nous arriverons jamais à lui mettre la main dessus. Celui qui creuse un tunnel sous le plancher de la banque, celui qui assomme le veilleur de nuit, le caissier, complice depuis le début, le directeur de banque, qui a fourni les renseignements, aucun d'eux n'a sans doute jamais vu Eccles, ni même entendu parler de lui. La chaîne qui mène à lui est très longue, et nul ne paraît connaître autre chose que le chaînon qui lui est immédiatement supérieur. Le schéma classique de la cellule, c'est ça. Plus ou moins, oui, mais avec quelques traits originaux. Un de ces jours, la chance nous sourira. Quelqu'un censé ne rien savoir saura quelque chose. Quelque chose d'idiot peut-être, de banal, mais qui, étrangement, sera enfin une preuve. Il est marié, il a une famille ? Non, il n'en a jamais pris le risque. Il vit seul avec une gouvernante, un jardinier et un valet. Ses réceptions sont des plus élégantes et je suis prêt à parier que toutes les personnes qui mettent les pieds chez lui sont au-dessus de tout soupçon. Et personne ne s'enrichit ? Vous avez mis le doigt dessus, Thomas. Quelqu'un devrait s'enrichir. On devrait voir quelqu'un s'enrichir, mais tout cela est très intelligemment combiné. De gros gains aux courses, des investissements en titres et en parts, toutes choses parfaitement normales qui se trouvent par hasard rapportées gros, toutes sortes de transactions apparemment honnêtes. Beaucoup d'argent entassé à l'étranger, dans différents pays et différents endroits. C'est une grande, une énorme machine à fabriquer de l'argent, mais de l'argent toujours en mouvement, qui va de place en place. « Eh bien, bonne chance, » dit Tommy. « J'espère que vous attraperez votre homme. »« Je pense que oui, un jour. Si seulement on pouvait l'arracher à ses habitudes, il y aurait un espoir. »« L'arracher, de quelle manière ?»« Par le danger, » répondit Ivor, « en lui donnant à croire qu'il est en danger, que quelqu'un est sur sa trace, en le mettant mal à l'aise. Un homme mal à l'aise peut faire une bêtise, commettre une erreur. C'est comme ça qu'ils se font avoir en général. » Prenez le plus intelligent des hommes qui organise tout brillamment et ne fait pas un pas de travers. Qu'un grain de sable vienne gripper les rouages et il va à la faute. Alors, j'espère. Maintenant, à vous. Vous possédez peut-être un renseignement susceptible de nous être utile. Rien de ce que je sais n'a à voir avec le crime organisé, je le crains. C'est de la petite bière. Voyons toujours. Tommy lui raconta son histoire sans se confondre en excuses pour ce qu'elle avait de banal. Ivor n'était pas homme à mépriser la banalité, et d'ailleurs, il alla droit au point qui avait conduit Tommy jusqu'à lui. « Et vous dites que votre femme a disparu ?»« Oui, et ça ne lui ressemble pas. »« Ça me paraît sérieux, dites-moi. »« C'est ce qui me semble aussi. »« Je m'en doute. Je ne l'ai rencontrée qu'une fois, mais c'est quelqu'un. »« Si elle a levé un lièvre, elle est comme le chien de chasse sur sa piste, » marmonna Tommy. « Vous ne vous êtes pas adressé à la police ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Eh bien d'abord parce que je ne peux pas croire qu'il lui soit arrivé un pépin. Tupens s'en sort toujours. Elle échappe à tous les pièges qui se présentent. Elle n'a peut-être pas eu le temps de communiquer. »« Je n'aime pas beaucoup ça. »« Vous dites qu'elle cherchait une maison ?»« Cela n'est peut-être pas sans intérêt parce que parmi les différentes pistes que nous suivons et qui incidemment ne nous ont menés nulle part, il y a une sorte de réseau d'agences immobilières. » D'agences immobilières ? Répéta Tommy surpris. Oui, de gentilles petites agences, sans envergure, dans des villes de province, dont aucune très éloignée de Londres. L'étude de M. Eccles travaille avec et pour de telles agences. Il est parfois le notaire de l'acheteur, parfois celui du vendeur, et il emploie un certain nombre d'entre elles au nom de ses clients. Nous nous demandons quelquefois pourquoi. Aucune de ces transactions ne nous paraît très profitable, comprenez-vous ? Et vous pensez que cela peut signifier quelque chose ou mener quelque part ? Eh bien, si vous vous rappelez le grand braquage de la London Southern Bank, il y a quelques années, il a été question alors d'une maison à la campagne, une maison isolée. C'était le rendez-vous des voleurs. C'était là où on ne devait guère les remarquer, qu'ils mettaient à l'abri le fruit de leur pillage. Mais les voisins ont commencé à colporter des histoires, à se demander qui étaient ces gens qui allaient et venaient à des heures inhabituelles, qui arrivaient au milieu de la nuit et repartaient d'eux-mêmes dans des véhicules différents. À la campagne, on est curieux de ces voisins. La police a fait une descente sur les lieux, retrouvé une partie du butin et arrêté trois hommes, dont l'un a été reconnu et identifié. Et alors, ça ne vous a pas conduit quelque part ? Pas vraiment. Les types n'ont pas ouvert la bouche. Ils ont été bien défendus, bien représentés, ils ont écopé de longues années de prison et, un an et demi après, ils étaient tous rendus à la liberté, très intelligemment délivrés. Il me semble avoir lu des articles à ce sujet. Un homme avait même disparu du tribunal où il avait été amené entre deux gardiens. C'est ça, une évasion parfaitement combinée et qui avait sans doute coûté une fortune. Quoi qu'il en soit, le responsable des butins a dû comprendre qu'il avait commis une faute en gardant la même maison trop longtemps au point d'intriguer la population locale. Quelqu'un a sans doute pensé qu'il valait mieux se procurer quelques résidences, mettons une trentaine, dans différents endroits. Arrivaient dans l'une une mère et sa fille, une veuve ou encore un militaire à la retraite et son épouse. Tous des gens aimables et tranquilles. Ils faisaient quelques réparations dans la maison, appelaient un ouvrier du pays pour réviser la plomberie et peut-être quelqu'un de Londres pour refaire la décoration. Puis, au bout d'un an ou un an et demi, pour une raison quelconque, se voyaient obligés de vendre la maison et de partir pour l'étranger. Une combinaison de ce genre. Le tout parfaitement normal et sympathique. Durant leur séjour, la maison avait sans doute servi à des fins très inhabituelles, mais personne n'en avait rien soupçonné. Des amis leur rendaient visite, mais pas très souvent, à l'occasion. Un jour, par exemple, ils donnaient une espèce de soirée d'anniversaire pour un couple d'âge moyen ou d'âge mûr, ou une réception pour célébrer la majorité d'un enfant. À cette occasion, un grand nombre de voitures vont et viennent. Disons qu'il y a eu 5 grands hold-up pendant les 6 derniers mois et qu'à chaque fois le butin est passé par ou a été entreposé non pas dans l'une de ces maisons, mais dans 5 d'entre elles, dans 5 parties du pays. Pour l'instant, ce n'est qu'une supposition, mon cher Tommy, mais nous y travaillons. Supposons que le tableau que votre vieille dame a abandonné en d'autres mains représente une de ces maisons-là. Supposons que cette maison soit celle que votre femme a reconnue et qu'elle se soit lancée dans une enquête. Et supposons que quelqu'un ne veuille pas qu'on enquête sur cette maison en particulier. Cela se tient, vous savez. C'est un peu tiré par les cheveux. Ah, oui, je vous l'accorde. Mais nous vivons des périodes troublées où rien n'est impossible. En ce bas monde qui est le nôtre, c'est fou le nombre de choses incroyables qui peuvent se produire.